nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
En écoutant cet évangile qui est le même texte que dimanche dernier, le dernier dimanche après la Pentecôte, après la fin des temps, aujourd'hui nous ouvrons les temps nouveaux par le premier dimanche de l'Avent, déjà, et nous entendons le même texte apocalyptique. Vous me direz, c'est rien de neuf, je lis ça tous les matins dans mon journal. Seulement, est-ce que nous lisons comme il faut? Je crois que nous oublions trop souvent notre grâce baptismale qui est au fond de nous et qui nous donne la capacité d'une toute autre lecture. Nous lisons comme le journaliste nous y invite, et c'est son travail, dans la dimension horizontale, phénoménale, de l'histoire telle qu'elle se déroule à la surface agitée de l'histoire. Et nous avons la grâce d'une lecture prophétique, c'est-à-dire de descendre à la verticale et de comprendre qu'il y a une histoire à l'intérieur de l'histoire. En somme, on n'aurait jamais fini de commenter ces textes. Nous avons essayé une approche dimanche dernier où j'ai dit, plutôt que de parler de la fin des temps, je dirais, c'est le commencement, effectivement. Et puis aujourd'hui, je serais tenté peut-être d'ajouter que c'est probablement le commencement de la fin. Nous sommes au principe des choses dès lors que nous entrons dans la vision que nous offre le Christ des temps nouveaux. Et c'est absolument capital parce qu'il s'agit d'un style de vie, une manière d'être là, et qui nous sort enfin de la lecture païenne, de l'histoire universelle, celle sur laquelle nous sommes crucifiés tous les matins sur notre journal, et celle qui nous crucifie dans les détails quotidiens de notre vie personnelle. Je crois, si vous me permettez cette approche de ce texte, que tout l'Avent, pas seulement le premier, et ça va se conjuguer à travers d'autres textes jusqu'à Noël, c'est que le Christ nous invite à entrer durant tout l'Avent, dans cette immense germination, ces convulsions qui sont décrites à travers les guerres, les tremblements de terre, l'abomination de la désolation. C'est une gestation. Le Christ dit, ne vous dépriez pas, ne vous alarmez pas, redressez la tête, car il s'agit d'un enfantement. C'est la création, la recréation qui est à l'œuvre. Quelle lecture désastreuse de l'histoire que nous nous offrons, qui nous jette dans le désespoir. Le Christ est tout autre, il dit, redressez la tête. Ne désespérez pas. Lisez la réalité à l'intérieur. L'histoire est enceinte de Dieu et d'autre chose. On l'a sous les yeux tous les jours. Regardez. L'enfer est habité. Tous nos enfers décrits par le petit écran ou le journal. Il est habité. L'histoire est enceinte de Dieu. Car elle est notre propre histoire, l'histoire de chacun. Nous portons en nous, jusque dans nos cellules, cette mémoire ancestrale. L'Ancien Testament n'est pas si ancien que ça. Il n'est pas fini du tout. Il décrit les étapes de notre propre croissance spirituelle. Et quand alors, il faut s'y préparer, Noël arrive, c'est quoi ? C'est l'éternité dans le temps. C'est cette autre icône. Dieu, l'Éternel, se fait homme. C'est-à-dire, il entre dans l'histoire, dans le temps. Et alors, toute l'histoire bascule. Ça ne vous a jamais étonné que désormais, à partir de là, toute l'histoire, que l'on soit croyant ou non croyant, est datée à partir de cet événement. Nous sommes en 2004, après l'événement de la Nativité. C'est tout de même stupéfiant que n'importe quel païen écrit au En entête de sa lettre 2004, il s'agit de la date de la naissance du Christ dans l'histoire, où enfin notre histoire s'est ouverte à l'éternité et que ça a tout changé. Mais je crois que ce que l'on oublie plus facilement, c'est que mon histoire personnelle, la plus banale, justement, celle de tous les jours, n'a aucun sens hors de cet événement. Et quand j'utilise ce mot « sens », c'est dans les deux sens du mot, l'horizontale et la verticale. Il y a une direction et une profondeur. Et cette double réalité, c'est le poids de l'instant. L'instant. Les anciens philosophes ne connaissaient pas le mystère de l'instant présent. Platon, un des plus grands philosophes de tous les temps, l'appelait par exemple cette réalité d'étrange sorte. Ou encore, il disait ce soudain inexplicable. Mais depuis que Dieu en Jésus-Christ est entré dans l'histoire, l'instant présent, c'est sa présence. Puisque, comme dit saint Basile, alors du coup, on a la réponse uniquement après le Messie. Saint Basile, 4e siècle, un des plus grands parmi les pères, lui, il appelle l'instant le surgissement de l'éternité dans le temps. L'instant, dit-il, c'est le point d'attouchement de l'incréé et du créé, et de ce qui se passe de l'un à l'autre. Regardez justement cette fresque. Vous pouvez l'approcher de plus près demain, parce que l'icône la met à portée de notre regard et de notre toucher en bas. Cette merveilleuse icône, regardez-la de près. Le Christ dans la grotte est exactement posé, et c'est un canon iconographique, sur le point d'intersection de l'horizontale et de la verticale, sur l'intersection de l'éternité et du temps. Il est l'éternel entré dans l'histoire. Maintenant, vivre pleinement l'instant présent, c'est inévitablement être dans sa présence mystérieuse et approfondir sans cesse sa connaissance. Connaître l'instant, c'est naître à ce mystère des profondeurs, de moment en moment, d'instant en instant. Sinon, ma vie est un vide, et c'est le non-sens de l'absurde. Là où je suis, en d'autres mots, et je cite par exemple Martin Buber, un des plus grands philosophes de notre temps, qui aimait Jésus. Il disait de Jésus, c'est le juif par excellence. Mais il ne pouvait que soupçonner l'immensité du mystère. Il disait, là où je suis, et nulle part ailleurs, là, à cet endroit, en ce moment précis, dans ce que je fais, hormis le péché, se trouve le plus grand des trésors. Là, ici et maintenant, au plus profond de ce qui me laisse parfois si indifférent, de ce que je méprise, ce qui me fait souffrir ou ce qui me réjouit, se trouve la possibilité de la plus haute expérience et de ma plus grande transformation. Si donc, et c'est le grand mystère de l'avant, si donc l'instant présent contient le Christ, l'annonce, elle contient les gens. S'unir à l'instant, c'est s'unir au Christ. Et le connaître, c'est naître à lui et en lui, et lui en nous. Dans cette osmose, cette réciprocité amoureuse, car il n'y a que l'amour qui est connaissance, dans cette réciprocité amoureuse, se trouve ma métamorphose, ma transformation. Ce n'est que là que je mute. Et si je ne mute pas dans l'ici et maintenant, la mort dernière sera une mutation parce qu'on fait cœur qui ne peut me jeter que dans l'angoisse. Là est le tour du chemin. C'est le tour du chemin. Si de moment en moment je descends dans la profondeur de l'instant pour m'accorder complètement à ce qui est, m'accorder à ce qui se présente, le Christ naîtra aussi en moi à travers les difficultés, à travers la souffrance, à travers même la mort, jusqu'à ma naissance définitive qu'on appelle la résurrection. Et je ressuscite à chaque battement du pendule de mon horloge. Noël et Pâques sont inséparablement unis et sont à l'œuvre en moi à chaque instant. C'est d'une et même naissance dont il s'agit, dont Noël n'est que le commencement. Le voilà le commencement. D'ailleurs, nous le chanterons, le principe de toutes choses. Alors, ce temps de l'Avent et de Noël, c'est littéralement la transformation du temps en mystère. Ce temps qui, par la chute, n'était qu'un chaos vide, informe, l'instant présent retrouve sa splendeur paradisiaque avec la venue du Christ. Le temps, le ici et le maintenant, redevient une fête, comme dit saint Clément d'Alexandrie. Notre vie est une fête, et les chrétiens, on les appelle les amis de la fête à cause de cela. C'est le miracle permanent des fiançailles entre Dieu et l'homme annoncé par le cantique des cantiques. Cela, ça ne dépend que d'une chose, de ma décision. C'est l'âme qui dit « demain, je commence ». L'esprit dit « c'est maintenant ». Et sur ma décision dépend la nouveauté radicale. Au Seigneur soit la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen.